Bonsoir tout le monde, bonsoir David.
Bonsoir.
Bonsoir Geneviève Damas.
Bonsoir.
Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour vous interviewer à l'occasion de la sortie de votre dernier roman, Strange, publié aux éditions Grasset. Alors on a déjà eu l'occasion de vous recevoir dans le passé pour votre roman Jackie, qu'on avait présenté ici à la radio. Vous nous revenez avec un roman tout simplement bouleversant. Mais avant de, commencer, j'aimerais juste un petit peu vous présenter, même si beaucoup d'entre nous vous connaissent déjà. Vous êtes comédienne, metteur en scène, auteur dramatique en Belgique et en France. Et puis vous êtes surtout écrivain, connu pour les livres Jack, Bluebird, Patricia, Jackie. Et il y en a certainement certains dont j'ai oublié. Et pour aujourd'hui, Strange. Alors Strange est un beau roman sur lequel pour une fois on est tous les deux d'accord parce que c'est un livre qui est très très pudique, qui n'exprime pas de pathos excessif et qui raconte finalement une histoire qui est on ne peut plus actuelle. Et j'avoue avoir été étonnée, et je pense que David aussi, d'être à ce point touché par le sujet, parce que de quoi s'agit-il? Eh bien, le roman raconte le mal-être qui transpire à travers ses pages. Il raconte le mal-être d'un jeune garçon qui s'appelle Raphaël et qui veut devenir Nora. Et la façon dont vous racontez le roman, eh bien, votre écriture est remplie d'empathie, vous le faites avec beaucoup de talent, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de jugement surtout, et avec une grande économie de mots, une pudeur comme je le disais déjà, vous choisissez certains mots très particuliers, vous mettez les mots sur les mots et vous nous les racontez cette histoire. Alors pour faire vite le pitch, donc vous nous racontez le chemin parcouru par Raphaël pour devenir Nora. Et à travers une longue lettre, puisque le livre est une lettre de Nora Raphaël, qui se raconte à son père et qui raconte son histoire bouleversante de la découverte de sa différence, de sa volonté de transformation. Et comme il n'ose pas lui dire les choses de vive voix, il a choisi la lettre. Et c'est ça qui est véritablement bouleversant, parce qu'on sent l'amour, et c'est pour moi peut-être, et j'en ai la chair de poule, c'est peut-être ça qui m'a le plus touchée, c'est qu'on sent à quel point il aime ce père l'aime également énormément et pourtant ce père ne voit strictement rien. Alors il veut aussi épargner ce père parce que ce père a déjà été quelque part touché par la vie puisqu'il a perdu cette mère que l'enfant idéalise tant d'un cancer et donc finalement il se raconte à travers cette lettre qui n'est pas un règlement de compte, mais qui est plutôt la raison pour laquelle il l'écrit, c'est parce que justement il y a une honte qui l'empêche de parler et une peur de blesser cet homme déjà éprouvé. Alors rapidement, il va aller vivre à Bruxelles, il vient de la campagne, il va se découvrir, se déployer et je dirais enfin pouvoir être lui-même dans la grande ville, loin de cette petite ville étriquée qu'est la ville d'Arlon. Et il va intégrer le conservatoire de Bruxelles. Et c'est en se rendant dans la capitale des possibles qu'il peut exprimer ou qu'elle peut exprimer ce qu'il est vraiment et découvrir cette transidentité. Alors au fil des rencontres, il fera apparaître de plus en plus Nora, ce qu'elle est vraiment, et il va évoluer finalement dans un monde qui va le délivrer petit à petit des carcans. Cela ne se passera pas évidemment sans problème, sans mal, et surtout il y aura toujours cette crainte de la réaction paternelle devant la transition qu'elle a entamé, et puis aussi le fait d'être blessé parfois par des petites phrases de gens qu'il aime ou qu'il aime moins, mais qui ne réalisent pas le poids des mots lorsque on subit ce genre de transformation. Alors, vous n'omettez pas les difficultés, vous parlez de plusieurs sujets, et c'est comme ça qu'on va commencer notre interview.
Oui, mais moi, avant ma première question, nous avons retravaillé l'interview et il y a une phrase que j'ai envie de dire, une phrase que vous avez écrite et j'ai envie que vous disiez quelque chose par rapport à cette phrase parce que je trouve que cette phrase est le centre du... Il y a toujours un centre dans un roman, voilà, et nous avons choisi ça comme centre. À l'association, je trouve enfin les quelques mots qui me manquaient pour dire qui je suis et qui je ne suis pas. Un peu plus d'une dizaine. En soi, ce n'est pas grand-chose, si on compte que le dictionnaire en recense 90 000. Mais il n'en manquerait qu'un de nos, que nos vies s'écrouleraient. Comment exprimer l'existence sans le mot « amour » ?
Oui, je voulais dire ce mot-là, parce que c'est vrai que parfois je trouve qu'il nous manque des mots dans certaines langues. Voilà, il y a bien plus de mots pour un sujet, et je trouve que si on n'a pas les mots, enfin, au départ, les mots qui manquent à Nora, c'est le mot transidentité, à Arlon, tout ça, elle ne connaît pas, elle n'a pas de repère, et donc une fois que les mots existent, on n'est pas tout seul. Et je pense que, évidemment, c'est pas pour rien que je mets le mot amour, parce que la plus grande difficulté, et je pense que ça, c'est tous les êtres, c'est qu'à un moment, on est l'enfant d'un père et d'une mère, et à un moment, on dépasse leurs désirs, on n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et est-ce qu'en découvrant qu'on n'est pas ce qu'ils ont rêvé et imaginé, est-ce qu'ils nous aimeront toujours ? Puisque je pense que les enfants ont dit, il y a un amour inconditionnel, que même les enfants qui sont battus aiment leurs parents, mais... Et donc voilà, et je pense que je voulais inscrire la lettre au père dans ce triangle-là, parce qu'en fait... Quand on est, on n'a quelque part rien à perdre, puisque la relation nous importe peu, puisque la relation est terminée. Mais si on aime et qu'en même temps, il faut se faire accepter, il y a comme un étranglement. Et je pense que, voilà. Et en même temps, c'est le paramètre de ce discours-là, de dire, parce que très tôt, Nora pose le cadre qu'elle aime son père et que ce qu'elle va dire ne va évidemment, enfin, va évidemment le bouleverser. Mais le cadre, c'est l'amour. Donc, quelque part, tout le temps de la lettre, elle le tient. Elle dit, OK, c'est dur, mais oui. Je t'aime. Sache que je t'aime et que...
Voilà. On sent cet amour tout au long du livre. Voilà. Alors, quelle responsabilité, en tant qu'autrice reconnue, avez-vous lorsqu'on traite d'un tel sujet sur la transidentité ?
Alors, c'est vrai que... Donc, en fait, moi, le sujet, quelque part, m'a saisie. Ça veut dire que j'ai fait un atelier dans une école où je me suis trouvée confrontée à un jeune... trans, et voilà, ça a été un moment très très marquant. Et donc tout d'un coup, le sujet m'a saisie. Je me suis dit, mais je veux parler de ça, et aussi en tant que mère ou père, ou en tant que personne, parce que évidemment, moi je suis entre guillemets cisgenre, donc je ne suis pas transgenre. Mmh. Et donc j'avais envie de parler de ce voyage qu'on doit faire quand on aime quelqu'un qui fait un coming out trans, de voilà, nos repères changent. Tout ce qu'on s'est imaginé, tout ce qu'on a projeté, évolue, doit évoluer. Et quand on part en voyage, on se décentre. Ça veut dire que toutes nos certitudes, même parfois notre langue, on l'abandonne pour partir dans une autre. Et j'ai eu la sensation que c'était ça. Et à la fois, je ne voulais pas projeter des fantasmes de ce que je m'imagine. Enfin, je trouvais qu'il fallait que je parle de l'intérieur. Donc au début, et il fallait non plus pas que j'endosse une parole qui n'est pas la mienne. Mmh. Voilà. Et donc, au début, ce que je voulais faire, c'était 5 monologues sur Nora. Donc, de personnes qui connaissent Nora, qui ont connu Nora, ont lien. Mais tout le long de l'écriture, j'ai vraiment passé beaucoup de temps et dans des associations et auprès de personnes trans, mais aussi auprès de personnes qui accompagnent ce chemin-là. Et en fait, il y a une femme formidable qui est la présidente d'une association à Reims qui s'appelle l'association Transmission, Gaëlle Florac, qui a accompagné toute l'écriture. Et donc, je lui ai fait lire cette version à 5 monologues. Et en fait, elle m'a dit, OK, c'est très juste, mais en fait, c'est hyper violent. Et puis, elle n'a pas de voix. Ça veut dire que Nora, elle est muette puisque tout le monde parle d'elle.
Tout à fait.
Et il y avait comme un jugement, même sans le vouloir. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'endosse cette parole-là. Mais, et donc je me suis dit, en fait, je vais endosser la parole de Nora et je vais mettre le lecteur dans la position paternelle, en fait. Et lui, de devoir recevoir ça. Mais c'est vrai que c'est une responsabilité parce que je trouve qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Surtout que je m'empare d'une parole d'une minorité.
Bien sûr.
Est-ce qu'à travers ce roman, surtout la forme plutôt calme, donc le roman, une sorte de voyage initiatique? C'est vraiment comme un road movie qui raconte la souffrance d'un jeune homme en quête de changement et de sexe. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une volonté de sensibiliser, avec comme objectif de normaliser le regard du monde extérieur, de le rendre peut-être plus empathique face à un combat qu'on entend, mais qui est quand même fortement encore marginalisé?
Oui, je pense que... Alors, en même temps, la littérature ne doit pas être utilitaire, mais elle peut être utilitaire. Mmh. J'imagine que... Alors, sans vouloir me comparer à ça, mais par exemple, quand Primo Levi écrit « Si c'est un homme
mmh. », ouais, ouais.
qui est pour moi un ouvrage, un livre magnifique, il y a en dessous quand même quelque chose qu'il dit aussi sans... Le livre est violent, mais sa posture n'est pas violente. Mmh. Enfin, le livre est violent parce que le réel qu'il décrit est vraiment... Je pense que moi, je me suis dit que j'ai une... Enfin, si on tentait qu'on ait une mission, mais... J'ai une grand-mère de gauche qui disait qu'il fallait contribuer. Et donc, souvent, je pense que l'intolérance et la violence, elles viennent d'ignorance. Et donc, il fallait rencontrer Nora. Et je pense qu'on rencontre les gens dans la vraie vie, mais aussi on les rencontre dans les livres. Mmh. Et qu'il fallait qu'on puisse la rencontrer, elle, oui.
Alors, je vais sauter la troisième question, parce que quelque part, vous nous y avez déjà répondu, comment vous vous êtes documenté sur le sujet. Je vais plutôt revenir vers autre chose. Vous avez choisi la forme épistolaire dans le roman. Pourquoi avoir choisi ce genre ?
Alors, a priori, moi, j'ai, dans Bluebird, qui est un ouvrage précédent, j'avais déjà pris cette forme épistolaire. Donc, a priori, je m'étais dit, souvent, je m'étais dit, pas ça, tu ne feras pas ça. Mmh. Et à la fois, la question de la position du narrateur était hyper importante. Si je mettais un narrateur omniscient, si je travaillais avec le « il », j'avais très peur qui est du jugement.
Ça revient, si je peux me permettre, à ce que vous nous avez dit sur les cinq voix font pas parler la vraie voix.
Ça devient impersonnel.
Voilà. Oui, et je trouve qu'il fallait être à côté de Nora, mm-hmm. vraiment ouais. en elle, quoi, mm-hmm. avec cette parole libre, quelque part protégée, même si elle a peur, mais vraiment... Et puis, je trouvais aussi... Pour moi, Nora a reçu plus d'éducation que son père. Son père est un homme vraiment, qui a peu lu, qui est gardien de prison. Et donc, je trouvais qu'il fallait, cette explication douce.
En fait, on rentre plus dans l'intime à travers, peut-être.
Et puis, j'avais envie que le lecteur puisse, à la fin, se dire, moi, qu'est-ce que je pense ? Quelque part comme une forme de témoignage, comment je me positionne mmh. face à ça, et ne pas interférer, parce que si vous êtes à la troisième personne, on a aussi la pensée de l'auteur. Mmh. Et moi, je voulais livrer Nora la plus vivante possible, la plus...
Et vous effacer complètement.
Oui, voilà. Moi, j'aime les tableaux qui sont... Ouais. Les signatures sont toutes petites. Ouais.
C'est très réussi, je trouve, vous dites, parce que ça donne une écriture où on voit des images et une écriture... Et on voit les corps. Je trouve que c'est un roman très physique.
Je voulais le mouvement,
physique.
En fait.
Oh, ouais. Le mouvement. Mais on voit ça, on ressent ça et on comprend mieux cela. Enfin, votre réponse confirme cela. Moi, je me demandais quelle place occupe Strange dans votre parcours littéraire. Alors bon, c'est peut-être un peu frais encore comme question, mais est-ce qu'on peut discerner un avant et un après Strange? Et quelle influence cet ouvrage a-t-il déjà aujourd'hui sur votre évolution en tant qu'autrice? Est-ce que Strange, qui parle de transformation, est-il en train de vous transformer?
En fait, j'imagine. C'est... Strange est peut-être l'endroit où j'ai pris le plus de risques. Mm. Parce qu'à la fois, l'écriture est très dépouillée. Et plus j'avance, plus j'essaie que l'écriture ne se voit pas, qu'on ne voit pas l'auteur. Mais aussi parce que... Oui, c'était aller... Enfin, surtout qu'on est dans une époque où les minorités sont... Il y a une revendication des minorités sur une réappropriation de leur histoire. Et je suis allée en littérature. Je crois que ce que j'ai aussi voulu dire, c'est que il ne faut pas toujours... Enfin, il n'y a pas que ceux qui ont vécu qui peuvent parler mm-hmm. de ces sujets-là.
Ah oui, oui.
Et je pense que ça... Alors, j'y avancer un peu à l'aveugle, mais en fait, je pense que c'est aussi ça que j'affirme. Alors évidemment, on ne peut pas s'emparer de n'importe quelle histoire, n'importe comment. Mais il y a un moment où on peut s'emparer des histoires des autres, et il le faut parce qu'il y a aussi, ce qui est en jeu, c'est la solidarité humaine maintenant. C'est comment nous sommes reliés les uns aux autres. Et je peux, de manière la plus honnête et éthique possible, porter ton histoire.
La faire avancer.
Comme on le fait avec ceux qui ne sont plus là.
Bien
on
sûr.
Doit aussi porter leur histoire.
Bien sûr.
Et voilà. Et donc là, je crois que je m'affranchis d'une forme de peur. Moi, je suis quelqu'un qui vient beaucoup de la peur et de me dire, est-ce que tout le temps je suis légitime ? Et je crois qu'avec ce roman-là, j'ai osé avancer là-dedans. J'ai aussi changé de maison d'édition et j'ai un éditeur qui, lui, est dans une... Mais lui aussi, il est issu de minorité, donc lui aussi, sa revendication, elle est très forte. Et l'idée que la littérature est quelque part une prise de position forte.
Ça, ça prend combien de temps, excusez-moi, le processus là de Strange, à partir de l'idée d'aller chercher, d'aller se documenter jusqu'à...
Il a pris 3 ans et demi, vraiment, je pense, de vie dans,
alors,
tout le temps
pleinement.
avec des membres de cette communauté-là. Oui, tout le temps de... Et donc de se laisser traverser, de se laisser heurter aussi. Et je trouve qu'en même temps, c'est une chance de fou parce que moi, ça m'oblige à m'ouvrir, à bouger mes certitudes.
Bien sûr.
J'ai l'impression que le corps de l'écrivain... La pensée de l'écrivain, c'est la première matière qui doit être bougée.
Tout à fait. Et puis, c'est eux qui font bouger les choses. Alors, au-delà du thème de la transidentité, votre roman aborde également la notion de la famille qui est excessivement présente. Il y a la grand-mère qui, elle, a tout compris sans vraiment le dire. Il y a le père. Et il y a surtout cette mère décédée d'un cancer très présente dans l'histoire qui est fantasmée par ce fils. Et le fait qu'elle soit morte, rend-elle finalement le père encore plus fermé et le combat pour ce garçon encore plus difficile? Pourriez-vous nous expliquer peut-être ce que concrètement représente la famille dans Strange et quelle est plus précisément votre conception personnelle de ce concept?
Alors, mais je pense que d'abord, la chance de Nora, c'est d'avoir grandi dans une famille mente.
Il y a une stabilité.
La grande difficulté, évidemment, c'est que le père, on sent que dans ce que raconte le père, qui devient une forme de mythologie aussi, c'est qu'il a été sauvé par la mère, par l'amour de la mère. Lui vient d'un milieu très pauvre affectivement, quoi. Il a vraiment subi la violence. Et donc la mère l'a sauvé, parce qu'il était dans des combines, il ne faisait rien et tout. Et puis finalement, il devient gardien de prison. Elle l'aime, il se sent... élevé, porté, et puis la mère meurt. Mmh. Et donc, sur le lit de mort de la mère, il lui promet que cet enfant qui est minuscule, qui est encore un bébé, il va en faire un homme dont elle sera fière. Et c'est ça la promesse qui à la fois les étrangle tous les deux, puisque lui essaye de donner aussi quelque chose qu'il n'a pas reçu. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des études, c'est des activités. Et l'enfant voit bien que son père fait tout ce qu'il peut. Et donc... À la fois la mère, c'est vrai qu'elle coince Nora, et à la fois c'est elle qui est la porte de sortie, parce que Nora a un amour du chant et une liberté dans le chant que la mère aussi a connue, puisque la mère a rencontré le père à un concert de musique, elle chantait, elle faisait partie d'une chorale, donc elle n'a pas fait ce métier-là, mais en même temps, la musique pour la mère était quelque chose, et la musique est quelque chose qu'a reçu Raphaël. Donc voilà.
Elle reste aussi une sorte de fantasme.
Elle est un fantasme. Est-ce que nos mères et nos pères ne sont pas toujours des fantasmes? Alors effectivement, je pense que les psys lui renvoient l'image de « vous voulez devenir », entre guillemets, c'est tant qu'on puisse devenir, puisque Nora sent qu'elle est femme depuis le début, à cause de votre mère, ça... je pense que ça, c'est bien plus fort que ça. Mais en tout cas, la mère est une balise qui porte Nora quand même, qui la porte positivement. Mmh. Alors la famille, je pense que c'est le lieu d'apprentissage du monde.
Donc, alors, il nous reste 4 minutes.
Ah.
Et on va encore poser les 2 questions les plus compliquées, j'espère.
J'espère qu'il y aura une réponse.
Voilà. Non, on a trouvé que l'art... Voilà, mais vous êtes artiste pluridisciplinaire, on l'a dit au début de l'émission. L'art joue un rôle significatif dans votre livre. On aurait pu être dans le milieu hospitalier, j'en sais rien, mais on est au Conservatoire de Bruxelles, donc Quel est le lien entre l'art et la transidentité? C'est la question la plus courte. Et vous allez, vous explorez ça dans le roman. En quoi ces deux éléments, donc l'art et la transidentité, sont-ils liés en, je ne sais pas moi, peut-être en termes de mouvement, de changement, de, peut-être de liberté, je ne sais pas.
Je pense que l'art est le monde de tous les possibles. Et je pense que quand on se sent limité dans son corps et dans l'image que les autres vous renvoient, je pense que l'art et la voix, enfin, oui, permet beaucoup, répare beaucoup. Parce que c'est Daniel Dobbels qui disait que l'œuvre protège l'artiste. Je pense qu'à un moment, le chant protège et sauve Nora.
Alors, pour terminer... c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'ensemble de vos livres, que ce soit le cas de Jackie, par exemple, où il est question d'un jeune homme qui revient de Syrie, ou bien encore du désespoir des migrants à travers Patricia, quel est le lien, finalement, entre tous ces personnages marginaux? Est-ce que, pour vous, la littérature sert-elle, finalement, à rendre visibles ces gens invisibles, ces gens marginaux?
Oui, oui, moi je crois que c'est donner à entendre une voix, donner à entendre une pensée. J'essaye d'investiguer, enfin je ne suis pas la seule à le faire, mais les endroits que la littérature n'a pas encore explorés. Et je trouve qu'en rendant littéraire des parcours, des vies, c'est juste dire ça existe, ça fait partie du monde, et c'est leur donner aussi leur lettre de noblesse.
Merci beaucoup Geneviève Dama.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Merci,
merci David. Je voulais juste encore rappeler une chose, c'est que votre livre Strange est nommé pour le prix décembre et le prix Malraux du roman engagé. Donc on vous félicite.
Félicitations.
Voilà. Merci. À la semaine, à dans deux semaines, pour une nouvelle interview. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.